Bonjour, nous sommes sur Aligre FM 93.1 dans La vie est un roman. Et ce matin, nous avons la chance, le plaisir, et c'est un grand moment pour nous, de recevoir Pacôme Thielmans et le dessinateur Muso. Pacôme vient de sortir deux livres, l'un au PUF qui s'appelle Le secret de la société et l'autre un scratchbook Déviation qu'il a fait avec son camarade de jeu Bertrand Mandicot. Muso a publié lui aussi deux livres, l'un à Actes Sud, chez Actes Sud, Un avenir radieux, et l'autre qui vient de sortir une petite patte de mouche à l'association qui s'appelle Fait chier. Et donc Pacôme avant, Muso, avant qu'on prenne l'antenne, disait, on le dit 50 fois par jour, Fait chier. Et par exemple, on est arrivé, on avait rencard au bistrot, et en venant, il pleuvait avec un vent de face, et la pluie nous a arrosés, et ça faisait chier. Et donc, salut Muso.
Salut Yves.
Raconte-nous ce que c'est un avenir radieux.
Alors, Un avenir radieux, c'est un livre avec à peu près une centaine de dessins sur un sujet, sur le réchauffement climatique, l'écologie, la société de consommation. C'est une suite de dessins comme des dessins de presse. En fait, j'ai pris ce thème. À un moment, je me suis dit, tiens, ça serait bien de faire un livre avec sur un thème précis, un truc qui se suit, puisque c'est vrai que j'ai souvent tendance à faire des dessins. Je fais quelques dessins et puis après je passe à autre chose. Là, c'était un travail au long cours. Donc ça m'a pris. J'ai fait ça peut-être sur un ou deux ans. Oui. Je faisais un dessin de temps en temps. Je cherchais un article, je tapais écologie sur Internet ou j'ouvrais un magazine et je prenais un sujet comme si on m'avait commandé une illustration et je faisais quelques dessins, je cherchais la blague quoi sur le sujet du jour. Donc voilà, et puis j'ai fait cette suite de dessins. Et puis quand il y a une centaine, je me suis dit que ça faisait un truc assez. Qu'il y en avait assez, c'était assez cohérent et j'ai rassemblé tout ça en un livre.
Donc il y a un code couleur avec noir et vert.
Oui, en fait j'ai voulu faire simple quoi. C'est-à-dire que même les dessins sont simples. C'est-à-dire que j'ai pas essayé de faire des dessins, des jolis dessins travaillés comme j'en fais parfois. Le sujet était assez grave pour qu'il y ait pas besoin de. Dans mon esprit, c'était pas le moment de jouer à l'artiste, quoi.
Donc tu veux montrer au niveau du dessin lui-même l'urgence, quoi.
Voilà, c'est ça. J'ai juste publié les dessins comme je les dessine au départ quand j'ai une idée. Je fais le dessin comme ça pour le rough. Voilà, pour m'en souvenir. Bon, c'est un peu plus qu'un rough puisque quand je fais des roughs, c'est très brouillon. Mais là, c'est vraiment des dessins faits très rapidement, quoi. Ça me prenait pas plus d'une minute pour faire un dessin. Enfin, pour la réalisation du dessin me prenait pas plus d'une ou deux minutes, quoi. C'est du dessin comme je fais, comme si je fais une dédicace sur un salon, quelque chose comme ça. Et je trouvais ça bien. J'avais jamais fait ça. C'est vrai que j'essaie toujours de faire des. Enfin, quand je dis des jolis dessins.
Mais donc là, tu joues la fraîcheur, en fait.
Une certaine spontanéité.
Ça marche pas, on ne peut pas l'associer à l'écologie, la fraîcheur, mais...
On aimerait bien, ouais.
La fraîcheur contre le réchauffement.
Oui. Voilà. Et il y a des pages, ça aussi, c'est peu courant dans ce que tu fais, des pages de texte, carrément.
Oui, j'ai fait des pages de texte. En fait, là, c'était dans un but un peu, peut-être, commercial. C'est-à-dire que je sais qu'en fait, les livres de dessin, ça n'a pas tellement de succès, il faut bien le dire. Je veux dire, les gens, quand ils voient un livre de dessin, ils le feuillettent en 5 minutes et ils disent « bon, bah, ça y est, je l'ai lu ».
Ah ouais ?
Donc, bah oui, c'est la raison pour laquelle...
Tu veux retenir leur attention avec
et donc, c'est vrai que ce qui donne du poids à un livre, enfin pour beaucoup de gens, c'est le texte.
Ah ouais.
C'est... Et en fin de compte, là, c'était un peu un truc que je me suis dit, est-ce que c'était pour faire plaisir à l'éditeur ou pour me dire, tiens, peut-être que ça va mieux marcher. Et en fait, je trouve que c'est pas une mauvaise idée, parce qu'effectivement, en tant que, même moi, je pense qu'en tant que lecteur, si j'ai l'impression qu'il y a des choses à lire et que ça va me prendre quelques minutes ou une demi-heure, c'est différent d'un livre, effectivement, que je feuillette à toute vitesse et j'ai l'impression de l'avoir vu, quoi.
Et c'est pas une réminiscence aussi de Fournier, qui faisait ses dessins avec beaucoup de textes?
Oui, oui, ah bah là, c'était très, très, très chargé, les dessins oui. de Fournier.
On parle de la gueule ouverte, donc, pour les jeunes générations. On parle de l'époque d'Arakiri, il y a
mais,
très longtemps.
Mais l'histoire du texte, c'est valable aussi pour la bande dessinée. Je pense que la bande dessinée, c'est bien, parce qu'il y a beaucoup de choses à lire, tu vois. Mmh. T'as l'impression que... Mais combien de fois, effectivement, les gens feuillettent un livre? Si t'as un livre de 50 pages de dessins sans paroles, là, c'est... franchement,
il n'y a aucune chance de le vendre.
Ah ben ça, tu ne vas pas en vendre beaucoup. Mais hein. donc, tu vas très peu en vendre, parce que... Je pense que le texte, c'est vraiment un truc très important dans les livres.
Hein. Et donc, on peut dire que, vu de l'extérieur, vu de mon point de vue, tu as tenté de te renouveler. Parce que pour moi, par exemple, dans les livres pour enfants, j'avais des petits livres carrés. Quand j'ai eu mes enfants, j'en avais un des tiens. Et il n'y avait pas de texte, et je l'aimais beaucoup. C'est un garçon qui relève sa tête pour jouer au football avec. Oui. Mmh. Et donc là, à la fois dans l'approche graphique et puis dans le fait de mettre du texte, enfin dans tout, là, il y a un moment de renouvellement sur un sujet d'actualité.
Oui, oui.
Et tu t'imposes des contraintes à toi-même. Tu dis, je fais comme si je travaillais pour un quotidien. Ou un hebdomadaire, peu importe. Pour la presse, je travaille vite. Donc, pour renouveler le museau habituel, qui est plutôt assez léché.
J'essaie toujours de me renouveler. J'essaie de faire jamais le même livre. Et là, effectivement, c'est encore autre chose.
C'est un livre original à l'intérieur de l'œuvre de Museau.
Le prochain, ça sera peut-être un livre avec uniquement du texte, par exemple.
Mais le prochain,
c'est une envie aussi, hein, bien sûr. D'accord. C'est une grosse envie.
Maître Museau, le prochain, il existe, c'est fait chier.
Le prochain, oui, celui qui paraît, ce mois-ci, oui, effectivement, c'est fait chier à l'association, dans la collection Pattes de Mouche.
Et donc, il est très scato, hein, je crois qu'on peut dire, scatologique.
Il est au max scato.
C'est les aventures d'un étron.
En fait, c'était un livre que j'ai fait la première image, il doit y avoir peut-être 35 ou 40 ans.
Ah ouais.
et c'était cette histoire, la première image, je peux la décrire, c'est un mec qui est aux chiottes et il est en train de chier. Et on voit que l'étron... qui sort de son cul,
anus.
Voilà, il commence à descendre les escaliers, des escaliers qui descendent dans les chiottes, quoi, voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'il arrive dans quel pays merveilleux?
Comment est le paradis?
Dans
le paradis des étrons.
Merveilleux va-t-il atterrir? Et là, il descend les marches dans la cuvette des chiottes et il arrive dans un monde merveilleux où tout est merde. Les immeubles sont merde, les personnages, ce sont des étrons. Et donc c'était mon idée au départ, et donc je me suis bien amusé, effectivement, puisque une fois que j'étais parti
dans cet univers magique,
dans cet univers de merde, après, j'ai essayé de trouver le plus d'idées possibles tournant autour de l'étron et de la merde, quoi. Et ça pourrait être sans fin, du reste. Dans une autre vie, je pourrais passer 40 ans à dessiner des merdes. Mais bon, après, tout ça n'est pas très commercial.
Et donc, il y a... au début, quand on a eu les premiers ordinateurs et qu'on a eu accès à cette pornographie à la maison, et donc je regardais pour voir où c'était inventif et tout ça, et aussi je faisais inconsciemment des écoles nationales, les approches des différents pays de la pornographie.
Oui.
Et pour moi, c'était un genre allemand. Hein. Donc, il y avait énormément beaucoup de...
Attends, la pornographie ou la scatologie?
La scatologie était très développée en Allemagne et très peu développée chez les latins en général.
Oui, oui, oui.
Tu vois, il y a un gros refoulement.
Oui.
Et je pense que ça marche très bien avec la littérature et le dessin aussi, bien sûr, que si on va retrouver très facile. Et Luther, alors, Luther est très abondant en métaphores anales. Quand il insulte les autres, il les traite de merde, hein, très très facilement, avec beaucoup de un vocabulaire très riche, avec beaucoup de synonymes, tu vois. Et par exemple, oui, nous, donc là, là aussi, il y a une forte originalité ta part en faisant fichier. C'est peu fréquent. Oui. Par exemple, Sampé, je ne crois pas qu'il ait jamais dessiné.
Ah, bah, Sampé, alors, hors de question.
Il n'a jamais dessiné un
étranger. Pour
Eiffel n'a jamais dessiné.
Par contre, Topor, bien sûr.
Topor. Mais Topor a des influences, un dessin qui est assez germanique.
Topor, bien sûr. Kamagurka a fait des dessins super aussi sur la merde. Ouais. N'oublions pas notre ami Placide qui a fait un livre qui sent le caca il y a très longtemps.
Et Léon Lettron qui le fait.
Et Léon Lettron, l'excellent Léon Lettron. Oui, non, bien sûr. Et
du reste, la scatologie a ses lettres de noblesse.
Tout le monde, tous les bons dessinateurs ont dessiné de la merde.
Oui.
Je ne sais pas. Mais donc, alors j'ai bien sûr pensé à Topor. Enfin, tout de suite, je pense à Topor. Oui. Parce qu'il y avait Chanel 5, par exemple. Tu vois, elle est enveloppée dans un étron. C'est Chanel, c'est un parfum.
Ah ouais.
C'était le parfum le plus célèbre. Il y avait des publicités partout. Ouais. Et il fait une femme qui est enfermée dans un. Il fait un homme qui est enfermé dans un étron.
Ouais,
et il y a marqué Chanel 5. Et ça avait eu un succès fou. Ce dessin. Ah ouais. Il frappait juste là.
Puisque je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, j'ai découvert qu'il y a des gens qui sont très intéressés par le caca. C'est les Coréens et les Japonais. Il y a des musées du caca là-bas. Bon, après, c'est des cacas, j'ai l'impression, plutôt mignons, comme sur les... Comment ça s'appelle? Les émojis, c'est
kawaii,
ça.
Kawaii.
Voilà. Mais je crois qu'en Corée ou en Japon, il y a un musée du caca. C'est...
Ouais. Mais, par exemple, moi, je suis belge, donc du côté flamand, le scatologique est assez fréquent.
Ah bah oui.
Donc, dans la peinture, on a quand même beaucoup de choses. On peut les imaginer à table sur un pot de chambre. Enfin, tu vois, c'est assez... Mais en France, on est plus délicat.
Attends,
il y a quand même
dans l'art médiéval.
Ah oui, alors je peux vous donner un exemple.
Il y a beaucoup de cagueurs. Hein. Il y a des cagueurs même sur les églises.
Défendez-vous, mais
des cagueurs.
Je peux vous donner un exemple qui est classique et qui est très intéressant. Ben, par exemple, il y a Frédéric Lutz qui va être exposé à Arles. Et elle travaille sur les contes. Elle vient de Lorraine, donc c'est le côté allemand de la force, tu vois. Et on oppose Perrault, les contes français. Et les frères Grimm.
Oui.
Et Perrault, c'est vraiment Louis XIV, c'est la cour de France. Donc tu ne peux pas dire sage-femme, par exemple. Ouais. Parce que c'est vraiment, c'est déjà cochon, tu vois. Et chez les frères Grimm, tout est toujours au bord de la transgression. Ça va beaucoup plus loin.
C'est l'âge classique. Excuse-moi, c'est l'âge classique parce que pensez à Rabelais quand même.
Oui, bien sûr.
On va pas oublier Rabelais par rapport à ça. Chez Villon. Enfin, je veux dire, on a aussi une tradition littéraire de la scatologie qui est intéressante.
En France aussi.
Donc
Gargantua pisse des hauts des tours de Notre-Dame.
C'est toutes les histoires de comment on se nettoie les fesses là, après avoir chié. Il faut prendre un petit oiseau, etc.
Donc on est au XVIIe siècle. C'est au XVIIe siècle. Non, mais c'est au XVIIe siècle qu'on perd.
C'est ça.
On perd son naturel en France.
C'est une hypocrisie parce que je me souviens très bien des histoires où on racontait qu'à l'époque de Louis XIV, les gens chiaient derrière les portes dans le château de Versailles. Hein. Mais par contre, il ne fallait pas le dessiner, ni en parler.
Ni en parler, il ne fallait pas en parler.
On chie tous. Hein.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Merci de nous le rappeler.
Quel débat.
Écoute, on y reviendra après. Alors, et toi, Pacôme, tu nous as fait deux livres.
Je vous ai chié deux livres.
Le premier s'appelle Le secret de la société.
Oui.
Et il s'ouvre par une magnifique condensation de toutes les théories complotistes. J'ai beaucoup apprécié l'aspect virtuose de ce... justement de cette condensation au sens de la sublimation. C'est absolument passionnant. Je ne sais pas, il y en a 25 ou 35 pages. Ensuite, tu évoques le complot chez Balzac. Et donc, on retrouve le côté n'importe nawak de Balzac, qui est très poussé. J'avais bossé sur La femme de 30 ans, par exemple. Oui. C'est absolument extraordinaire, parce qu'il prend des trucs qu'il a écrits il y a 30 ans avant, oui, et qu'il recolle dans le truc. Enfin, c'est absolument invraisemblable. Et ensuite, tu nous fais un long livre sur Jacques Rivette, tout le développement du complot chez Jacques Rivette. Et donc, peut-être tu pourrais nous parler des théories complotistes. Là, ça commence quoi, au XVIIe siècle?
En fait, ça commence au XVIIIe, après la Révolution française. Bon, en fait, pourquoi j'ai fait ça? Je vais essayer de pas la faire.
Raconte-nous le livre.
Mais en gros, bon, moi, je voulais faire un livre sur Rivette. Parce que Rivette est mon cinéaste français préféré depuis très longtemps, depuis que j'ai, je sais pas quoi, 18 ans, 19 ans, que j'ai commencé à regarder ses films et que je les regarde en boucle. Et Rivette, on l'a toujours associé à Balzac et au complot, depuis même avant son premier film, puisque avant son premier film, bon, le film était déjà en cours, mais il y a les 400 coups de Truffaut, où il y a une dédicace à Rivette énorme, une séquence qui commence où le petit Antoine Doinel fait un hôtel pour Balzac, qui est son héros, va dîner avec ses parents, l'hôtel prend feu, pour dévier l'attention, la maman dit au beau-père, allons au cinéma, qu'est-ce qui passe ce soir? Paris nous appartient. Oh ben si, c'est un complot. Et bon, donc déjà, ça s'était lancé. Et donc Rivette, toute sa vie, un peu malgré lui, parce qu'il, en tout cas, il s'en défaussera toujours, il dira toujours, enfin, très souvent en interview, il dira qu'il est le dernier membre de la Nouvelle Vague à avoir lu Balzac, qu'il le connaissait à peine à l'époque de Out, qu'il a mis beaucoup de temps à rentrer dedans, etc., etc. Et que le complot est un sujet qui n'est pas très intéressant pour lui, qu'il ne comprend pas pourquoi on le renvoie toujours à ça. Il se trouve quand même, malgré tout, bon, on le renvoie toujours à ça, et que ses films, d'une façon ou d'une autre, ont affaire avec ça. En tout cas, ont affaire, comme les romans de Balzac, avec l'au-delà de ça, enfin le truc qui détermine cette espèce de petit phénomène qui est devenu un thème de société depuis une vingtaine d'années de façon très poussée, un truc de journaliste, etc. Mais qui a une historique et cette historique, c'est enfin bon, ce qu'on appelle la première grande théorie du complot, c'est celle de l'ex-abbé Baruel, là, ce pauvre prêtre en exil là, qui a pas compris ce qui lui est arrivé après la Révolution française et qui a commencé à l'expliquer par un gigantesque complot organisé depuis des siècles, quasiment même plus d'un millénaire. Puisqu'il date le point de départ du complot du prophète Mani. Le prophète Mani, c'est 4e siècle. Donc il avait eu 14 siècles d'organisation qui passent par les cathares exterminés, qui passent par je ne sais pas quoi. Et surtout, il met au centre les Illuminés de Bavière. Faut que je précise. Oui, j'ai lu son livre, hein, du coup, parce que bon.
Tu as lu Mani pour écrire.
Ah non, Mani, je le connais depuis longtemps. J'ai lu Baruel pour lire.
Ah oui.
Enfin, je me suis infligé les 700 pages.
C'est la seule personne à l'avoir lu, c'est ça?
Non, pas la seule. Mais je me le suis infligé. Disons que c'est pas le livre que j'aurais envie de lire le matin comme ça en me réveillant. Mais je me suis dit bon bah je vais faire le truc. Hein, Rivette, Balzac, le complot. Allons-y et puis essayons de voir qu'est-ce que j'ai à faire avec ça aussi et pourquoi c'est intéressant ou pas de traverser ça. Parce que qu'est-ce qui m'a intéressé? En effet, je fais le voyage à travers les différentes grandes théories du complot, en gros depuis celle-là jusqu'à plus ou moins nos jours, quoi. Je suis pas allé jusqu'au Covid, c'était trop. Et puis j'avais préparé ça un peu avant. Mais en gros, qu'est-ce qui les caractérise? C'est une réaction par rapport à des événements qui sont à ce moment-là ininterprétables. Des événements qui sont ininterprétables par leur puissance d'apparition. Et après, il y a tous ceux qui ont théorisé la théorie du complot. Je mets à peu près au même niveau parce que pour moi, ils sont assez délirants eux aussi. Et donc ça commence avec Karl Popper, le livre « La société ouverte et ses ennemis ». Ça, c'est les années 50, quoi. Et c'est un philosophe américain qui est le premier, normalement, à avoir conceptualisé l'idée de la théorie du complot au milieu de ce livre « La société ouverte et ses ennemis », qui est un des livres les plus paranoïaques que j'ai jamais lu. Qui essaye d'expliquer que la démocratie libérale, qu'il appelle de ses voeux, quoi, vraiment une démocratie mais sans État et tout ça, enfin bon, un truc qu'ils sont pas loin d'avoir réussi à obtenir au bout du compte, aurait pu être possible dès la Grèce antique s'il n'y avait pas eu tous ces adversaires de la liberté que sont les philosophes. Et le livre, mais je ne plaisante pas, est aussi délirant que celui de Baruel. Baruel, lui, il explique un complot de 14 siècles pour en finir avec le catholicisme et la royauté, quoi, et imposer en fait le joug des pauvres pauvres et des faibles sur les puissants et les riches qui sont normalement les garants de la continuation du monde. Je caricature à peine, hein, le livre de Marvel est aussi cinglé que ça. Et du côté de Popper, qui est le premier à théoriser ça, qui va être ensuite le maître de tous ceux qui vont en gros combattre le complotisme, lui, c'est, on pourrait être dans une super démocratie libérale qui est aussi injuste hein, que le système que Barwell veut obtenir, s'il n'y avait pas eu à chaque fois des espèces de théoriciens qui ont essayé de nous enfumer avec leurs idées de l'État, leurs idées de la répartition, etc. Et c'est Platon, Aristote, Kant, Hegel, évidemment Marx, puisque derrière, l'adversaire principal, ça va être Marx. Donc, bon, j'ai voulu faire une espèce de... Tu dis une condensation... Je te remercie, c'est un peu ça. Enfin, un voyage hyper rapide.
Non, on peut dire maintenant que tu as dit « j'ai lu le livre » aussi, on peut dire que tu y retournes, parce que Popper, c'est pour les gens une seule phrase sur la falsification.
Oui,
vrai, ce qu'on peut falsifier, là, etc.
Oui, oui.
Et est-ce que tu as lu le protocole des sages de science ?
Bien sûr, oui, j'ai dû lire.
Donc, c'est ça. Donc.
J'ai lu tous ces trucs-là.
Là, les gens, ils t'en parlent, en général, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ouais, et puis, les gens qui bossent, ils lisent l'original, et puis après, ils n'ont pas d'interlocuteur, parce qu'ils les ennuient, mais ils savent de quoi ils parlent.
Oui,
c'est ce qu'on sent dans ta version condensée.
Condensée.
Et ce que tu dis, c'est qu'il n'y a pas de complot, que le complot, c'est qu'il n'y a pas de complot, et que la vérité, c'est qu'il y a de l'oppression, et que tous ces discours cachent la réalité de l'oppression en faisant croire qu'il y a un complot, alors que le complot, c'est qu'il n'y en a pas, mais qu'il y a réellement de l'oppression.
Oui,
c'est ce que tu dis, Paco.
Oui, oui. Bah oui, il y a des polices. Il y a des polices, c'est déjà largement suffisant. Il y a de l'oppression, il y a de l'inégalité sociale. Et ça, c'est suffisamment net et clair et pas très mystérieux. Après, il y a aussi du mystérieux dans le monde. Mais le mystérieux, c'est la création humaine. C'est les relations que les humains arrivent à avoir entre eux, malgré ce qui les oppresse.
Mais toi, tu vas le mettre, dans les mondes parallèles, dans le gnosticisme.
C'est une dimension qui m'intéresse, oui, bien sûr.
Donc, je me suis dit, il n'est pas héraclitéen, Pacôme, parce qu'on ne peut pas dire qu'il ne se baigne pas deux fois dans le même fleuve.
Je baigne souvent dans le même fleuve. Et
Parménide, voilà, c'est ça que je...
Parménide non plus, mais Empédocle, j'aime beaucoup.
Ah voilà, c'est excellent.
C'est Empédocle, mon mec. Ouais.
Mais donc, les 100 rois, oui, donc c'était ça le...
Le livre est le
point de départ.
Le livre est la continuité de ce livre-là. Disons que ça fait 5-6 ans que tous mes livres, en fait, sont une sorte de feuilleton. Enfin, ces livres que je fais au PUF, dans la collection de Laurent de Sutter, Perspective critique, La victoire des 100 rois, Sicomore, Sicamore, L'enquête infinie et Le secret de la société sont une collection, c'est un suivi. C'est-à-dire, La victoire des 100 rois était vraiment le livre sur les gnostiques, manichéens, cathares, enfin, le livre sur leur spiritualité. Sicomore, Sicamore était une tentative de réfléchir à ce principe-là, mais au sein des relations amoureuses. L'enquête infinie, ça le déplaçait dans le domaine de l'art et de ses interprétations, on pourrait dire. Et celui-là, c'est dans le champ politique, quoi. Parce qu'en fait, l'idée derrière, malgré tout, c'est que c'est un livre sur les marges. Et en fait, il y a une réalité qui est celle de l'oppression et donc un sentiment qui n'est pas du tout inventé d'impuissance politique. Et il y a aussi une réalité absolue qui est celle des marginaux, ceux qui n'ont jamais leur place dans les décisions politiques et qui sont peut-être là où se joue le plus, on va dire, les devenirs de l'humanité, la dimension visionnaire. Ça, c'est les films de Rivette qui me le montraient vraiment. Dans les films de Rivette, on a ça. C'est le seul même cinéaste que je connaisse qui montre ça.
Donc, tu penses que c'est le cinéaste des marges ?
C'est le cinéaste qui montre de la quelle façon la société se nourrit se perpétue à partir des innocents sacrifiés, mais ces innocents, quand ils arrivent à le voir et à s'unifier, donc, enfin, comment dire, comme des sociétés de marginaux arrivent à le renverser. C'est comme ça que je l'interprète. Rivette, il te le dit pas, mais c'est ce que je vois dans ces films.
Et donc, je pense avoir vu la version de Hot One entre les deux. Là. Elle fait quoi, c'est 2 heures
De 4 heures.
De 4 heures, j'ai vu la version de 4 heures, vu que j'allais voir tous les films à l'époque.
Ouais,
tu vois.
Ouais.
Et donc, oui, alors, à part la belle noisette, je me suis posé, en lisant ton livre, je me suis posé la question de la survie économique de Rivette. Bon, il était payé au cahier du cinéma, mais...
on travaille dans des journaux.
Il faisait pas beaucoup d'entrées par rapport à,
aux autres, non.
Aux autres, hein.
Non, non, mais oui. Alors, La Belle Noiseuse, il a très bien marché. Tous ces films n'ont
mais
pas mal marché.
C'est très tardif, La Belle Noiseuse, par rapport à ce dont on parle.
Là, ouais, ouais. Tous ces films n'ont pas mal marché, mais il est beaucoup moins, bien sûr. Mais c'est des films pas très chers non plus aussi.
Oui, il y a ça, oui.
C'est, et il a eu des producteurs incroyables, dont celui qui a fait Out, qui est Stéphane Chagalchev, qui est vraiment un type héroïque, quoi. Un type qui, en fait, qui s'est donné à la production par amour des cinéastes radicaux, quoi. Rivette, mais d'autres ensuite. Hein. Mais Tchakalchev, Out n'aurait sans doute pas existé si Tchakalchev, qui avait rencontré Romer, lui avait dit « J'ai adoré l'amour fou de Rivette, etc. J'aimerais bien aider cet homme. » Il dit « Il aura bien besoin parce qu'il n'est pas sûr de pouvoir faire un autre film. »
Bon, l'amour fou, ça avait dû marcher quand même, non
pas, oui. Oui et non, pas trop mal.
On
hein, mais bon, enfin bon, moi je suis pas un spécialiste des entrées.
J'ai reçu ici à Beaubourg, ils viennent de faire un livre sur l'achat par Kubelka entre 71 et 74, avant l'ouverture de Beaubourg. Ils font une collection de films expérimentaux.
Ouais.
Et donc c'est magnifique parce que l'Anglois va leur pourrir la sortie, parce que tout ce qui est pellicule appartient à l'Anglois, donc il va pourrir la sortie à l'ouverture de Beaubourg, ils veulent passer les films, et l'Anglois va imposer qu'on passe les films à la Cinémathèque.
D'accord.
Et on parle de films dont certains sont des monochromes projetés à l'écran sans son. Mmh. Le film qui va gagner, j'étais au festival du film expérimental à Knokke-le-Zoute en 67, et le film qui gagne un prix, c'est un garçon qui est sur un petit bout de rocher au large de l'Angleterre et qui jette sa caméra Super 8 pendant trois quarts d'heure en l'air. Et les étudiants de Vincennes vont venir protester devant la Cinémathèque parce que les places sont trop chères et qu'on les empêche de voir des films avec des monochromes de couleurs. C'est pour rappeler aux jeunes générations qu'on adorait quand même des choses qui étaient très bizarres et qui étaient aux limites de l'abstraction, on peut dire.
Oui.
Et on aimait vraiment ça énormément. Et ça a disparu, corps et bien. Bah, évidemment, la pellicule a disparu. Enfin, tout a disparu et remplacé par d'autres choses. Mais il y avait un vrai engouement et ça a tourné entre autres avec l'arrivée de la vidéo qui avait un rapport à la couleur qui était extrêmement différent, qui était basé sur les projecteurs projetaient trois couleurs et les mélanges. Tandis que le Super 8, par exemple, c'est extrêmement riche, un petit peu comme les diapositives avec les œuvres d'art qui étaient quasiment mieux que les originaux.
Il y a des cinéastes qui continuent à tourner en pellicule. Hein. Bertrand Mandicot, mon ami avec qui je fais Déviation, là, mon camarade cinéaste, lui, il tourne qu'en pellicule. Il tourne qu'en pellicule pour les nuances de couleurs qu'apporte la pellicule et la capacité d'absorption de la lumière qu'elle a, qui est toute différente de la vidéo. Après, la vidéo peut faire d'autres choses.
On va faire une petite pause musicale et après, on va reprendre avec toi, on va lancer la musique... si c'est possible. Nous sommes sur Aligre FM 93.1 dans La Vie est un roman à Pizzo et pas comme tellement.
Ok. Ah oui.
They don't like it. What I love, and I love it. What they do. Ever since the groovy today, it will be deep now too. Oh, oh please, don't know that I'm really wrong. Thank you. Everything's a groovy today. Everything's a sunshine today.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Et donc, nous sommes dans la vie à Roman avec Pacôme Thielman et Museau, et nous parlons de complot. Et Museau, qu'est-ce que toi, tu crois à quoi comme complot?
Je ne sais pas, rien.
Pas de complot, toi?
Dire, sinon,
t'es un type hyper rationnel.
Oui, je suis vraiment très... Un type très simple.
C'est très... excellent.
Très terre à terre. Hein.
Ouais. Matérialiste.
Oui. Je pense pas beaucoup. J'écoute la radio et puis.
T'as pas des poussées alors... mystiques, par exemple?
Des poussées mystiques, non.
Bon, d'accord. Est-ce qu'on parle de... Bon, on peut parler du livre avec Mandico, si tu veux. Après, on reviendra à Balzac et à Rivette. Alors, j'avais
un c'est toi qui décide. Hein.
Alors, ça s'appelle Déviation, vie parallèle de Pacôme Thielman et Bertrand Mandico. Deux scrapbooks mis en miroir. Je te laisserai dire le nom de l'éditeur.
Et Anima.
Anima. Et j'ai donc écrit une série de questions sur ce livre. Qu'est-ce que Pacôme Bureaux que ça apporte à Bertrand Geising? Est-ce que Pierre Paolo Mandico et qu'est-ce que Pierre Paolo Mandico apporte à David Thielman? C'est vrai qu'elle était compliquée celle-là. Désirez-vous, comme vos illustres prédécesseurs, vous fondre en une seule personnalité? Bon, je passe. Les choses étant ce qu'elles sont, l'un jouant avec les images et l'autre avec les mots, l'un collant et l'autre biffant, l'un montrant plutôt des corps, suggérant des désirs et l'autre exprimant plutôt des idées, racontant ses rêves, évoquant l'apocalypse de Jean, la gnose. Vous publiez à deux, l'un fait du cut-up, l'autre du collage, on peut penser un film, l'un produisant l'image et donc l'autre le son. Et dans votre film, c'est quoi l'histoire que vous racontez? Qu'il n'y a plus d'histoire, rien que des moments décousus sans rapport entre eux, mais qu'il y a toujours de l'art. Scroller sur Instagram, sur Facebook, voguer dans l'époque et de pop américain. La question que je me suis posée en feuilletant vos pages épatantes et si inventives est qu'est-ce qui vous rapproche? En quoi est-ce que vous stimulez réciproquement? Qu'est-ce qui résonne et s'entrechoque entre vos deux productions? Qu'est-ce qui vous stimule chez l'autre? Où est-ce que vous vous rejoignez et où est-ce que vous disjonctez? Qui est cerveau droit? Qui est cerveau gauche? Et ensuite, plus spécifiquement, est-ce qu'on peut risquer l'hypothèse que l'un utilise les mots pour dessiner ses rêves et ses errances mentales et que l'autre découpe et colle des photos pour raconter ses dérives et ses fantasmes? Un mélange de ces références et de gens qui ont l'air de ne pas comprendre ces références. Ma question est donc, est-ce que ces messages vous touchent, vous amusent, vous heurtent? Avez-vous répondu à celui qui vous a écrit « Mon vrai nom est Ali Akbar » Et à celui qui vous accuse de lui avoir volé dans un roman son nom de famille et le prénom de son oncle, et à celui qui dit ne pas comprendre vos textes, tout le monde est-il potentiellement une star et tous les modes d'expression dignes d'intérêt? Tu vois, tu m'as fait bosser comme une brute.
C'est formidable ta question. C'est trop de questions, mais je ne pourrais jamais répondre à tout ça. Ah bah oui, je veux bien. Merci, bah, quel beau cadeau. Merci Yves. Ah ouais. Mais je vais aussi l'offrir à Bertrand Mondico parce que c'est quand même quelque chose. Alors, bah il y a plein à dire. Hein. C'est fabuleux.
Et donc tu fais un collage de textes entre autres, tous les gens un peu bizarres qui t'ont interpellé sur Facebook. Tu étais très présent sur Facebook.
Oui,
à chaque
longtemps.
Fois que tu postais quelque chose, tu avais 300 likes. J'étais très jaloux.
Ah, c'est vrai.
Il n'en est jamais plus de 30.
300 likes.
Oui, mais enfin bon.
Tu te payes de ta personne. Tu parles de l'arrière. De la politique, ça, toute chose dont je suis incapable de parler. Et tu t'impliques, donc tu mérites ces likes. Oh, tu parles à ces gens et il y a des gens extrêmement... Alors tu racontes tes rêves et puis donc je disais, tu cites des gens qui sont...
Super bizarres.
Qui sont un peu l'art brut du commentaire. Ils sont en même temps assez inventifs.
C'est très beau.
Et donc, dans une autre question, je citais le relevé que fait Georges Grosse, à un moment donné, est très en colère. On le comprend. On parle des années 30 en Allemagne, est très en colère par rapport à la société dans laquelle il vit et cherche un style graphique qui puisse exprimer sa colère. Et il va relever les graffitis dans les chiottes pour trouver un parler schématique par le dessin.
J'ai déjà entendu ça, effectivement. C'est ce qui mettait le plus haut.
Ça me faisait pas. Et ils sont très bien, ces relevés. Et après, les dessins qu'il fait, tu comprends le rapprochement. Par exemple, tu as un dessin avec beaucoup, beaucoup de personnages qui se jettent par des fenêtres, qui courent dans les rues. Et ça ressemble à un petit pendu dans les chiottes, par exemple. Ou un petit cœur, et les cœurs ressemblent à des fesses. Enfin, il y a un très bon bouquin là-dessus qui s'appelle Eros et je ne sais plus quoi, d'un mec qui s'appelle MacLean. Qui était un très bon livre aussi. Et puis à Brassailles, bien sûr. Enfin, il y a plein de choses formidables. Et
moi, ça me fait penser ce que tu dis aussi à... alors là, c'est l'autre bouquin. Je parle beaucoup de la troisième génération de Rainer Fassbinder, qui est chapitré par des graffitis de chiottes. C'est-à-dire, le film est chapitré. À chaque fois, il y a une citation qui est un graffiti de chiottes toujours plus bizarre, inquiétant, poétique, dense, mêlant. Non, c'est
alors, on est d'accord que le style de Fassbinder, disons en tout cas dans la première période de sa production, rejoint... s'il y a quelqu'un qui a la rage et puis... L'Allemagne en automne, ça s'appelle, c'est une série de petits sketchs. Ouais. Et le sketch de Fassbinder où il est avec sa mère et avec son copain et qui jette de la coke dans les chiottes et tout, à l'énergie justement de Grosse et à cette énergie
complètement.
Absolument fabuleuse et l'économie des moyens aussi.
Ouais.
C'est ça, on rejoint Placide et Museau, là, c'est un dessin, on a une grande économie de moyens au cinéma. Par exemple, la lumière montre bien son artificialité, c'est éclairé au néon avec beaucoup d'agressivité et des couleurs primaires. Extrêmement agressif.
Alors, qu'est-ce qui nous réunit avec Bertrand Mondico? En fait, on s'est rencontrés. C'est un ami dans l'art. C'est un artiste que j'aime et un ami dont j'aime l'art. On s'est rencontrés un peu tardivement. On s'est rencontrés il y a une dizaine d'années. Parce qu'il n'y a pas, c'est-à-dire qu'on était déjà très adultes, on ne s'est pas rencontrés jeunes, mais ça a été un vrai coup de foudre, un coup de foudre artistique et amical. Et depuis, on n'a pas cessé de trouver des occasions de faire des choses ensemble. Parce qu'on se voit souvent, parce qu'on partage beaucoup de choses, beaucoup de goûts, dont la bande dessinée. On s'est rencontrés sur la bande dessinée. Bertrand Mondico, c'est un cinéaste, mais il a une culture graphique qui part de la lecture, de Harakiri, des Charlie Mensuel, il a une culture bazooka, il a une culture mais vaste graphique, hein, mais avec une bonne base de bande dessinée. On aime... Lui, il a vu beaucoup plus de films que moi, mais on aime un peu le même genre de choses. Et donc, du coup, on a souvent des choses à échanger. Et en même temps, on est tous les deux un peu, dans nos mondes. Je ne sais pas comment dire ça. Donc, du coup, l'idée de faire un livre ensemble, c'était l'idée de faire deux livres. C'est pour ça que on a chacun notre scrapbook, quoi. Parce que si on avait dû faire un scrapbook ensemble, peut-être ça aurait pas fonctionné. Je sais pas si c'est pas proche finalement. Placide et Buzot, vous avez fait peu de dessins ensemble.
Oui, on a fait peu de dessins ensemble, effectivement. On n'était pas comme elles sont sorties qui faisaient beaucoup de choses ensemble. Nous, c'était un exercice qu'on a fait comme ça un peu de temps en temps, mais c'était plutôt. On mettait nos dessins côte à côte, quoi.
C'est ça, c'est ça. Parce que, enfin, je sais pas, il y a des personnes qui collaborent facilement, qui font facilement quelque chose ensemble, et d'autres pour qui c'est peut-être plus difficile ou ça se marie moins. Ou... Et donc, avec Bertrand, du coup, c'est de faire deux livres, mais en parallèle. Deux scrapbooks qui pourront être lus ensemble et séparés. Mais comme on partage beaucoup de choses, de toute façon, les associations, elles se font vite. Alors, c'est sûr, ce que j'ai remarqué, Bertrand a une dimension sans doute plus érotique, plus sensuelle, plus, mais de toute façon plus graphique. Hein. Et moi, j'ai sans doute une dimension plus, je sais pas, onirique, apocalyptique dans le texte, mais j'aimais bien aussi, alors vraiment, et je vois que ça a résonné pour toi et ça me touche beaucoup, parce que c'est quelque chose qui m'intéressait énormément. J'ai beaucoup aimé intégrer dans mon livre beaucoup de messages qui venaient de, en fait, qui étaient des messages que j'avais reçus le temps que j'étais sur les réseaux sociaux, sur Facebook, des messages auxquels j'ai eu du mal à répondre. Alors, des fois j'ai répondu, des fois j'ai pas répondu, mais je me souviens pas de ça. Ce qui se passe, c'est que j'ai mis de côté ces messages là je suis pas retourné sur les réseaux sociaux, mais j'avais mis de côté ces messages un peu comme un herbier, quoi. Alors, les trucs les plus étranges que j'avais, je les avais mis de côté parce que vraiment, je me dis, bon, ça, c'est incroyable.
Non,
ça,
je pense que c'est foisonnant de créativité.
Ouais.
Et qu'effectivement, il y a une libération de la parole et puis qu'il y a de mise en commun. Enfin, cette... l'avenir jugera, mais je pense que c'est là que ça se passe. Hein. S'il se passe quelque chose aujourd'hui, je pense que c'est là que ça se passe. Sur ces réseaux sociaux, pour le meilleur et pour le pire, hein, qu'on ne peut rien y faire, mais que tout ce qui sera retenu par l'histoire est publié là, existe là. Et après, le tri se fera, l'histoire jugera, quoi, ce qu'elle garde et ce qu'elle ne garde pas.
Celui qui m'a accusé d'avoir volé dans un roman son nom de famille et le prénom de son oncle, c'était dingue, ça, ouais.
Alors ça,
c'était incroyable, incroyable.
Tu sais, t'as par exemple un cousin, justement, artiste d'art brut, du Corbusier, qui est très connu, comment il s'appelle, enfin, qui dessinait avec les doigts, tout ça, donc t'as le... Et il dessinait sur les livres du Corbusier. C'est très agressif. C'est un violoniste. Qui, bon, c'est l'artiste brut le plus célèbre de tous les temps. Bon. Michel Thévaux a fait sa thèse, son livre, enfin, peu importe.
Ça va ce ne sont que des textes écrits par d'autres ?
Non, non, non. Les poèmes sont par moi, les rêves aussi. Et il y a aussi des fragments de textes que je n'ai pas continué, qui sont dedans. Ce qui est écrit par d'autres, c'est avec des polices de caractères différentes. Par exemple, ça, c'est écrit par d'autres.
D'accord.
Ça, je ne crois pas. Il faudrait que je voie de plus près.
Comme j'ai pas mes lunettes, je peux rien lire. Donc
oui.
C'est juste un livre de un beau, très beau livre d'art contemporain.
Mais la rature, hein, donc j'ai reçu ils ont publié le journal de Marcel Brotars à l'atelier contemporain.
Ouais.
Et c'est des ratures. En fait, c'est des longs textes raturés, hein, pour prendre un type de fluxus. Et donc toi, pas comme tu dis que tu es védantiste. C'est vrai ou enfin tu dis
védantiste.
Ça ou c'est moi qui l'ai inventé? Je pensais que tu étais gnostique, védantiste, non? C'est pas le...
Gnostique, oui, mais pas védantiste.
Non, alors, tu vois, comme j'y connais rien, j'essaye, quoi. Je
védantiste
cherche.
Ben non, il faudrait déjà que je sois hindou, quoi.
On est obligé d'être hindou pour être védantiste.
Hindou, on peut pas, enfin, on peut pas se convertir à l'hindouisme.
C'est
pas
possible.
Si t'es pas, t'es pas né en Inde, d'une famille indienne.
Tu ressembles à un fakir, quand même.
Tu ressembles à un fakir.
C'est des casques.
C'est des casques, bien sûr.
Et donc, si t'es pas d'une autre casque, tu peux pas y accéder.
Oh oui, tu peux pas devenir védantiste.
Toi,
comme ça
par
foi, quoi.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Et donc qu'est-ce que je voulais dire?
Je sais pas pourquoi.
On revient si tu veux au complot chez Balzac, on a
si
pas parlé
veux.
Vite
ouais,
fait
ouais,
si
ouais.
tu veux
et ouais, carrément,
ou alors tu parles de Rivette parce que c'est quand même C'est un livre que tu as énormément travaillé, qui est énormément développé. Et chaque chapitre correspond à un film. Il y a Out One, c'est un gros morceau.
Ouais, c'est le plus gros chapitre gros sur morceau. Out. Il y a, en gros, plus ou moins. En gros, le livre est composé comme ça, quoi, en dix chapitres qui correspondent presque à 10 épisodes d'un feuilleton ou 10 passages, 10 voyages. En effet, le premier est sur le complot, le deuxième est sur Balzac. Le troisième, on va dire, est une mise en place autour de Rivette avec Paris nous appartient. Quatrième est sur Out 1. Le cinquième n'est sur Céline et Julie, mais aussi beaucoup sur Juliette Berthaud et sur Hermine Caragueuse et leurs œuvres respectives. Elles ont une place quand même dans le livre aussi.
J'ai pas lu le livre d'Hélène Frappa
sur Rivette, qui est très bien.
Mais donc, il y a aussi, peut-être qu'on pourrait dire ça à nos auditeurs, il y a un côté pro-femme, disons, pour parler le langage de l'époque, par rapport aux autres cinéastes. Frappa dit du bien de Rivette, ça veut dire qu'elle pense qu'il y avait un comportement correct avec les femmes.
Ah non, mais c'est certain.
Parce qu'elle est très vigilante sur ces questions.
Non, mais c'est certain.
Qu'est-ce qu'elle raconte, Hélène Frappa, de ce soir ?
Dans son livre ?
Oui.
Son livre, je ne peux pas résumer son livre,
Jacques Rivette. Son point de vue, tu peux nous le donner.
Sur Rivette, mais c'est tellement vaste.
Ah non,
c'est comme moi, c'est un cinéaste sur lequel elle a passé 10 ans. Quoi. Ouais. Elle adore. Je ne peux pas me permettre de résumer. Mais par contre, j'ai lu et adoré son livre sur Rivette. Et il m'a aussi nourri. De toute façon, c'est le seul qui existait. Hein. Mais par contre, on peut dire, par rapport à Rivette, et ses actrices, parce que
Juliette
c'est surtout
Berthaud,
ça, Juliette Berthaud en particulier, c'est que la spécificité du cinéma de Rivette, c'est c'est un cinéma qui est ouvert à l'écriture par les acteurs, c'est-à-dire que où il y avait des passes d'improvisation, où il y avait des écritures communes. Donc les acteurs écrivaient leur rôle, écrivaient leur personnage, participaient à l'écriture du scénario, participaient au film. Et une des premières actrices de Rivette qui a vraiment fait ça à fond, c'est Juliette Berthaud. Et Juliette Berthaud, qui avait été découverte dans les films de Godard, La Chinoise et Le Gai de Savoir, en fait, elle a vraiment explosé avec Out et surtout Céline et Julie vont en bateau. Et ce qui est beau, c'est qu'au moment où sortent Céline et Julie vont en bateau, qu'elle initie quasiment, enfin, c'est un film où elle a, un rôle vraiment fondamental dans l'écriture du film. Au moment où il sort, il y a le dossier de presse, elle écrit un texte formidable dans le dossier de presse qui se termine par j'ai beau beaucoup appris de mes deux maîtres, le savant fou et le dernier samouraï. Le savant fou, c'est Godard, le dernier samouraï, c'est Rivette. Et maintenant, n'ayant ni dieu ni maître, je vais m'atteler à ma propre créativité. En fait, en gros, elle dit, bon, ben voilà, c'est fait. Maintenant, je vais faire mes films.
Elle fait
Neige qui est sublime. Elle a fait Neige, elle a fait Cap Canaille, elle a fait Havre. Havre qui est trop peu connu, qui n'est pas réédité en DVD encore, qu'il faudrait rééditer, qui est sublimissime, qui est vraiment un très grand chef-d'œuvre, et elle a aussi écrit des textes, et des textes passionnants. Alors, elle a fait un livre, La fille au talon d'argile, mais aussi énormément de textes en revue qui mériteraient complètement une édition. Enfin, pour moi, c'est une des grandes poétesses des 50 dernières années, Juliette Berthaud. Et Hermine Caragueuse également.
Il y a un aspect, ça me fait penser, il y a un aspect fondamental qui ressort de tous tes chapitres sur Rivette, c'est le rapport au théâtre.
Oui, bien sûr.
Et on n'identifie pas du tout le cinéma de la Nouvelle Vague à un rapport au théâtre qui nous paraît quelque chose d'archaïque, bien sûr, puisqu'on est dans un cinéma direct à caméra légère à l'extérieur, donc on a un effet 400 coups qui est à l'inverse de ça.
Oui, mais ça c'est bah après, ça définit beaucoup ce que fait Rivette au sein
si
de la Nouvelle Vague.
Si on pense à Truffaut, on a la version kitsch du théâtre aussi. Mais donc Rivette, c'est le théâtre, tu pourrais parler de ça.
Ah oui, bien sûr. En fait, dès le début, mais pourquoi le théâtre ? Alors, il y a plein de raisons pour lesquelles il y a un rapport au théâtre. Je pense que le principal, c'est qu'il voulait, ça c'est quelque chose qu'il dit lui en interview, il voulait voir des artistes au travail. C'est pour ça qu'après, il va faire aussi La Belle Noiseuse, entre parenthèses. Mais ce qui est quelque chose de difficile à faire. Montrer un peintre en train de peindre, c'est hyper difficile, quoi. Trouver un récit par rapport à ça. Mais des acteurs de théâtre, on peut les voir en train de répéter. Et en fait, ce que moi, je vois Ça, c'est pas lui qui le dit, hein, mais c'est mon hypothèse, c'est qu'en faisant ces films avec des acteurs qui répètent des pièces qu'ils vont pas jouer, c'est ça aussi. C'est des pièces, on les voit répéter, mais on les voit pas jouer la pièce. Et normalement, on les voit pas jouer la pièce, mais souvent, on les voit répéter une pièce qu'ils ne joueront pas. En fait, on rentre dans un processus créatif indépendamment de son résultat. C'est ça qui est très, très beau. Et là, ça se rapproche de quelque chose qui est proche de la définition même du théâtre d'Artaud ou celle de Colette Thomas, qui est vraiment le travail de l'acteur indépendamment de la représentation. En fait, on apprend, on joue pour changer de corps, quoi. On se fait un corps avec le théâtre. C'est pas, on joue pas pour avoir un public, on joue pour se transformer, se métamorphoser physiquement, psychiquement, et être capable d'affronter la vie.
Ça serait l'aspect living théâtre.
Un peu.
Parce que je pense au cinéma expérimental de nouveau des années 60.
Mais oui, tout à fait.
Eux, ils font des films qui sont des films d'avant-garde et où ils suppriment tout ce qui fait théâtre et ils gardent que les acteurs et leur corps.
C'est vrai. Mais Rivette, en fait, a commencé ce travail avec les comédiens, avec L'Amour Fou, avec deux acteurs et actrices de génie qui sont Jean-Pierre Calfon et Bulogier, mais ils venaient de la troupe de Marco. Ils les avaient vus dans les pièces de Marco.
Les idoles.
Les idoles. Marco est déjà aussi sur quelque chose où les acteurs improvisent, se donnent tous les jours, autrement, encore, etc. Et là, il se passe quelque chose qui, on va dire, dépasse la question de la représentation théâtrale et qui fait du théâtre un laboratoire pour autre chose.
Alors là, je peux dire, j'étais au festival de Knock, le Zoo du film expérimental.
Ouais.
C'est une place chic. Hein. Et donc, c'est comme Deauville. Ouais. Et il y avait Clémenti, il y avait Calfon, il y avait Bulogier.
Ouais.
En Santiac et puis Perfecto.
Ouais.
Et ils mettaient leurs pieds sur la rangée de sièges avant.
Ouais.
Et ils ont changé ma vie. C'est la première fois que je voyais des jeunes gens modernes, moi qui étais bruxellois.
Ouais.
Et ils étaient très beaux. Ils étaient là pour les idoles de Marco. Justement.
Bah, c'est formidable, bien sûr. Non, mais c'est une révolution. Les idoles de Marco, c'est une révolution. On a le film encore. Hein,
ouais, bien sûr.
Même si on n'a pas des pièces filmées, on a le film qui a tombé par terre. L'Amour Fou,
c'est
juste
pop,
après.
Quoi, c'est fait avec tous les textes, c'est des slogans publicitaires.
Complètement. Et le cinéma de Rivette part aussi en partie de ça. Quoi. En tout cas, c'est un des ingrédients de son cinéma et qui va quand même rester malgré tout le long de son cinéma parce qu'il y a quelque chose qui revient au sein de sa filmographie, c'est qu'à peu près tous les 10 ans, c'est ce qu'il disait hein, dans un entretien, il fait sa petite chronique de la vie politique à Paris, de la situation politique.
Et donc Paris nous appartient.
Paris nous appartient, Out, Le Pont du Nord. Puis moi j'y ajoute, hein, je fais l'hypothèse que La Bande des Quatre et Au Bas Fragile, c'est dans la continuité de ça parce que c'est 10 ans plus tard, parce que c'est Paris. Et La Bande des Quatre, à ce niveau-là, je trouvais vraiment un film passionnant.
Alors,
à tous les niveaux.
Il y a une idée qui est très belle aussi, et qui est aussi du vécu, c'est Paris en été, là, quand
ah
oui, personne.
Ah oui, ça c'est... Bien sûr.
Monterland, il y a une phrase de Monterland que je cite souvent, qui dit « Quand on me demande pourquoi je reste à Paris au mois d'août, c'est difficile pour moi de dire aux gens parce que vous n'y êtes pas. »
Ah oui.
C'est tellement beau... Quand j'habitais à côté de la Bourse, là, vers Opéra, dans le sentier, puis quand les avenues sont désertes, là, tu peux te mettre au milieu de l'avenue et puis tu as des perspectives magnifiques et puis tu as tout à fait un autre rapport à la ville. Paris t'appartient.
Hein, oui.
C'est bien
le
message du...
Ça, Rivette l'a tiré aussi de, bah alors là, d'un autre écrivain qui est Peggy. C'est Peggy qui, dans Victor-Marie Contugo, fait tout un passage sur ceux qui restent l'été à Paris. C'est vrai que ça détermine beaucoup de choses par rapport à Paris, les gens qui restent en été à Paris. Moi qui suis quasiment jamais parti en vacances en été, je connais par cœur ce Paris. C'est pour ça que je m'attarde aussi beaucoup là-dessus. En effet, c'est quelque chose qu'on partage ou pas.
Ouais.
Quand on a vraiment vécu des années et des années, des dizaines d'années d'été à Paris, on voit très bien en quoi le cinéma de Rivette tire parti de Paris en été et de la disponibilité particulière des Parisiens à ce moment-là. Le moment où on n'a rien à faire, le moment où on peut flâner, on peut se balader, où on se rencontre, on peut voir la même personne tous les jours de la semaine, parce qu'on est les seuls à ce moment-là. Donc du coup, c'est des amitiés très particulières qui commencent à ce moment-là, comme Céline et Julie. Céline et Julie, c'est deux filles qui se rencontrent un été à Paris et qui vont... ça va changer leur vie parce que c'est deux magiciennes et qu'il va falloir sauver une petite fille qui est dans un récit circulaire en boucle où elle est sacrifiée à la fois à la fin de chaque journée. Donc c'est un film fantastique, mais c'est aussi un film quasi documentaire sur ce que c'est que la vie à Paris l'été.
Il y a aussi un sentiment dans les films de Rivette, mais pas dans La Belle Oiseuse, mais dans les précédents, d'improvisation tout le temps.
Alors c'est une improvisation relativement contrôlée. Ouais. Sauf dans Out, où elle est complètement incontrôlée, mais du coup, ça a créé des...
On n'a pas donné la durée de la version longue.
13 heures.
13 heures.
Oui, c'est un film de 13 heures. Et là, alors vraiment, c'était... les acteurs, ils étaient en roue libre, quoi. Certains ont eu des crises d'angoisse, hein, parce que ça ne doit pas être évident de se retrouver balancé dans un film avec un récit, avec des scènes de dialogue improvisées. Tu remplis des bobines de 10 minutes, comme ça. Ouais, c'est un stress. Après, c'est souvent composé pendant le tournage. C'est-à-dire que les scénaristes, Pascal Bonitzer et Christine Laurent, sont sur le tournage. Et avec les acteurs, au jour le jour, suivant une trame préétablie, avec des personnages qui sont plus ou moins composés, ils vont écrire au jour le jour les scènes. Donc il y a quand même quelque chose, si ce n'est pas de l'improvisation, du sur le pouce, quoi.
Mais l'idée, c'est de donner du produit frais plutôt que des choses extrêmement élaborées.
C'est ça.
Et surveillées.
Exactement.
Pensées et...
Ça donne une impression de réalité, ouais. Assez curieusement, quoi.
Mais c'est quoi, c'est une histoire ?
Hein ?
Il y a une histoire ?
Mais bien sûr. En fait, il y a une histoire très, comment dire, très bien écrite, en fait.
C'est le côté Balzac, tu sais.
Mais tous les épisodes, ils ont une forme de souplesse, quoi. Tu vois, les personnages...
Et c'est quoi l'histoire ?
Ben, ça dépend des films.
Non, mais de Out.
Ah, de Out. Out, c'est deux marginaux, un mendiant et une petite voleuse. Le mendiant Colin, joué par Jean-Pierre Léaud, et la petite voleuse Frédéric, joué par Juliette Berthaud, qui apprennent tous les deux par des lettres l'existence d'une société secrète sur le modèle des 13 de Balzac dans le Paris des années 70. Et donc, ils mènent leur enquête, chacun de leur côté, sur cette société secrète qui tiendrait Paris. C'est ça le récit de Out. D'accord. Et on découvre les membres de cette société secrète, mais ils sont pas très impressionnants. C'est-à-dire que, oui, ils auraient bien eu envie, quoi, mais enfin, ils n'ont jamais vraiment tenu Paris. Et les membres de la société secrète sont joués par Michael Lonsdale, Vernette Lafont, Bulogier. C'est des acteurs exceptionnels.
Est-ce qu'on le verra sur Netflix ?
Alors ça, je ne sais pas, mais il faudrait voir si Netflix
pourrait
racheter ça.
Mais tu peux emprunter dans un club
de
vidéo,
tu les trouves en DVD.
Les DVD.
C'est extraordinaire.
Et
c'est vraiment c'est exceptionnel.
C'est l'heure, on va se quitter. Hein. J'étais très content de
vous
voir.
J'ai
revenez quand vous voulez.
C'est très bien, Paco.
C'était tout excellent, Paco.
Mais c'est... c'est pas un problème. Non.
Écoutez Aligre FM 93.1.